Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je rappelle avant de commencer qu'il n'y a pas de séminaire ou de cours la semaine prochaine, le 13, mais que nous terminons donc cette série le dernier jeudi du, sinon du mois, mais du moins de la partie ouvrable du mois, c'est-à-dire le 20. Donc on reprendra pour terminer cette analyse jusqu'au milieu du XVIIe siècle des recherches en partie comparatiste pour comprendre cette pièce perdue de Fletcher et Shakespeare, le 20 décembre. Alors aujourd'hui, je voudrais terminer la partie française de ce dossier. Vous vous souvenez que la fois dernière, j'ai essayé d'analyser cette première adaptation française du Quichotte, qui est cette pièce de Pichou, donc sur laquelle on ne sait pratiquement rien, puisque aucune, par exemple, des histoires du théâtre du XVIIIe siècle ne mentionne même son prénom, et qui avait pour titre Les Folies de Cardenio. Et j'avais suivi, selon cette méthode d'analyse des textes, un peu la dynamique du développement de la pièce pour arriver au dernier acte. Je rappelle donc que cette pièce de Pichou a été publiée en 1629. Et qu'elle avait sans doute été jouée par les comédiens à Paris vers 1627 ou 28. Alors, en arrivant au dernier acte de cette tragicomédie, et c'est sans doute là un point essentiel que j'avais essayé de mettre en place en montrant comment un certain nombre des adaptations de l'histoire de Cardenio, Lucinda, Dorothea et Fernando dans le Quichotte pouvaient avoir trouvé un succès européen par le succès de ce genre nouveau, ou du moins retrouvé au début du XVIIe siècle, la tragicomédie. Et Pichou s'inscrivait tout à fait, la pièce de Pichou s'inscrivait tout à fait dans cette perspective. Le dernier acte de cette tragicomédie montre comment les folies de Cardenio deviennent celles de Don Quichotte. Et on retrouve ici cette idée qui porte cette analyse, c'est-à-dire que les trois pièces dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, l'une perdue, mais dont le titre est Cardenio, l'autre, la Commedia de Guillén de Castro, Don Quixote de la Mancha, et la pièce de Pichou, les folies de Cardenio, sont fondées sur cette histoire des amours heureuses, puis malheureuses, puis finalement heureuses, des quatre jeunes gens. En même temps, au moins dans la pièce de Guillén de Castro, nous ne le saurons jamais pour la pièce anglaise représentée en 1613, Don Quichotte y est présent, dans cette position marginale, y compris même du point de vue temporel dans la construction des actes, et d'autre part dans cette position, dans cet emploi qu'il occupe dans la Commedia, qui est celui du gracioso. La dynamique de la pièce de Pichou conduit un peu à cette même constatation, dans la mesure où les folies de Don Quichotte, dans une pièce qui a pour titre les folies de Cardenio, deviennent de plus en plus l'argument central dans le dernier acte. Les deux premières scènes de ce dernier acte sont occupées par ces folies de Don Quichotte. La première avec le retour de Sancho qui fait à nouveau un portrait au vrai de Dulcinée, je cite, « En un mot, elle est belle, étant louche et camuse, ayant le front étroit, les sourcils abaissés, le teint noir, le poil rude et les yeux enfoncés. » Et il apaise son maître en lui disant que cette dame de ses pensées accepte son amour. Et d'autre part, il y a ce deuxième ressort fondamental qui permettait, à la fois à Cervantes, mais plus encore à ceux qui voulaient adapter le Quichotte pour la scène, de lier les deux histoires, celle de Chevalier errant et celle des jeunes gens amoureux, c'est-à-dire la feinte qui transforme Dorothée en une infante exilée qui va demander secours au chevalier errant, et vous vous souvenez, c'est le stratagème construit par le curé et le barbier pour essayer de ramener Don Quichotte dans son village. Et comme chez Guillén de Castro, cette construction de ce piège, de ce stratagème, conduit à un très bon argument pour une scène divertissante dans Don Quichotte, puisque c'est une sorte de scène de théâtre dans le théâtre. On reviendra sur ce thème dans la mesure où les personnages vont assumer les rôles qu'ils se donnent, et à commencer par Dorothea se présentant à Don Quichotte comme une princesse suppliante pour qu'il vienne l'aider. Mais avant qu'il achève sa pièce, avec un autre épisode comique de l'histoire, Pichou doit, comme Cervantes, comme Guillaume de Castro, reformer les couples désunis. Et vous vous souvenez que c'était un argument que j'ai essayé de mettre au centre de cette analyse, puisqu'il met en jeu quelque chose de très profond, c'est-à-dire l'opposition entre ces deux définitions du mariage dans les sociétés d'Ancien Régime, et en particulier dans l'Espagne de la première modernité, une définition du mariage qui découle directement des décrets du Concile de Trente qui suppose la présence du prêtre, les formules du rituel chrétien, le consentement des parents et l'échange des anneaux, et la présence de témoins, donc tout cet ensemble de ce qui fait le mariage post-tridentin, et d'autre part, omniprésent chez Cervantes, comme une ombre dans les pièces, comme la Commedia de Guillaume de Castro, ou ces deux pièces françaises, c'est-à-dire une définition du mariage qui inscrit la puissance sacramentelle dans les promesses de futur, c'est-à-dire dans le moment où, sans témoins, sans présence ecclésiastique, sans rituel chrétien, les deux jeunes gens se promettent le mariage, la parole est donnée, la palabra dada, comme on l'avait rencontré dans le texte de Cervantes. Alors c'est une difficulté qui était déjà confrontée par Guillaume de Castro et qui est encore plus forte peut-être dans le contexte français des années 1630-1640. On le retrouvera avec la dernière pièce que j'aimerais analyser dans cette première séquence de séminaire sur Cardenio. Il faut reformer les couples désunis, mais se confronter à cette difficulté qu'avait légué le Quichotte. C'est-à-dire que, comme le disait Dorothea, la tension entre les deux mariages, les promesses échangées entre Lucinda et Cardenio, les promesses encore plus fortes faites, s'il est possible, par Fernando à Dorothea, et le second mariage, celui de la scène spectaculaire dans la maison de Lucinda, entre Lucinda et Fernando. Dans le cas de Pichou, la situation est menée à la fois sur le plan de l'histoire, sur le plan de l'intrigue, d'une manière spectaculaire. Fernand, c'est son nom dans le texte français, se démasque devant Lucinde. Elle lui rappelle son engagement avec Cardenio, plus fort, dit-elle, que le consentement que lui a arraché. Cardenio entend Lucinde s'adresser ainsi à Fernand, la reconnaît, défie en duel, comme il l'avait promis Fernand, et Dorothée, en espérant que l'amour qu'elle conserve pour Fernand pourra faire renaître celui qu'il a eu pour elle, je cite le vers, « Rallumez de mes feux votre première braise », vint d'un coup le cœur de l'infidèle, et très rapidement, plus rapidement que Cervantes, évidemment, Pichou mène au dénouement de cette de l'intrigue, de la nouvelle dans la historia. Finalement, Fernande reconnaît sa culpabilité envers Dorothée, abandonne son épée, revient vers celle qu'il a séduite et rend Lucinde à Cardenio. Beauté digne sujet de ma première flamme, ne vous souvenez plus des froideurs de mon âme. Ces baisers, ces plaisirs différés si longtemps punissent bien l'erreur de mes feux inconstants. Lucinde, je le veux, posséder Cardeni, il faut que votre amour soit ainsi réuni. Et comme de l'écuyer de Fernand, étrange changement, c'est-à-dire assez brusque transformation des personnages, qui est un des traits de cette esthétique, où on trouverait évidemment aussi puissamment mis sur scène dans nombreux textes shakespeariens. Il y a comme une condensation abrupte, dans une sorte de conversion brutale de ce qui était des échanges déployés dans une plus longue durée, par exemple, par Cervantes. Alors, le point ici qui est important par rapport à ce que je disais sur le mariage, c'est que Pichou, d'un côté, a affaibli la nature même des promesses. Il s'agit là d'un amour juré, mais il ne s'agit pas de promesses qui font sacrement de mariage. Donc, on fait basculer tout ce qui est serment, engagement, promesse, du côté d'une dimension affective, psychologique, la fidélité, mais non complètement détachée de toute puissance sacramentelle qui était celle du mariage avant les décrets tridentins, et qui le restera d'ailleurs, puisque des collègues espagnols ont étudié comment de nombreux procès s'engageaient pas à partir d'une plainte faite par une jeune fille qui se considérait comme une jeune femme, puisqu'elle était mariée à la, par le fait même qu'une promesse de futur lui avait été faite. Et d'autre part, le deuxième élément dans Pichou, qui affaiblit évidemment la difficulté de défaire des unions qui ont déjà été scellées, l'une par le rituel, l'autre par la promesse, et c'est la grande thématique de Cervantes dans cette histoire de Cardenio et Lucinda, c'est d'avoir bien sûr marié Fernand et Dorothée, il lui rappelle le saint nœud qui délie, il lui rappelle les lois, mais vous vous souvenez que celui qui les avait mariés n'avait aucun statut ecclésiastique au sein de l'Église catholique, puisqu'il s'agissait d'un sacrificateur, une sorte de prêtre à l'ancienne, inventé par Pichou, qui permettait aussi d'éviter, dans un certain sens, la difficulté de mettre sur scène l'annulation de facto d'un mariage qui aurait été prononcé, comme il l'est chez Cervantes, avec l'ensemble du rituel catholique. Et du coup, une fois donc la situation des amours rétablie, Pichou peut revenir à l'achèvement de sa pièce, et évidemment, comme il l'a fait au début de l'acte avec ce dialogue entre Sancho et Don Quichotte autour de la belle Dulcinée, c'est d'achever la pièce avec une autre des folies, non plus de Cardenio, mais devenue raisonnable, mais Don Quichotte. Et d'une manière intéressante, il ne choisit pas l'épisode qu'a choisi Guillén de Castro. Vous vous souvenez que là encore, avec un certain brusque changement, une fois esquissé dans la Commedia de Guillén de Castro le stratagème de la princesse Micomicona, il l'abandonne pour revenir à ce qui est dans Don Quichotte, le retour du chevalier errant dans son village, c'est-à-dire le moment où, supposément enchanté, il est capturé par les autres personnages, mais pour lui par des démons, et mis dans une cage sur roulette, dans un cortège burlesque qui le ramène dans son village. Pichou n'a pas choisi cette voie, il en a préféré une autre, c'est-à-dire de revenir au chapitre 35, lorsque, vous vous souvenez peut-être, à l'intérieur des trois chapitres du Curioso Impertinente, sans doute d'ailleurs dans une révision du manuscrit, si on suit Francisco Rico, Cervantes a introduit, au moment où le curé lit l'histoire du curieux, du mari trop curieux, il a introduit le combat que mène en rêve, mais en réalité, c'est un rêve éveillé ou une action qui est faite dans le sommeil, le combat que Don Quichotte met pour lui contre le géant usurpateur du royaume de Micomicona, et en fait, dans la cave ou une des salles de l'auberge de Juan Palomeque, où il le perce à coups d'épée les outres de vin. Et c'est cette histoire que Pichou a gardée pour la fin de sa tragicomédie, puisque Don Quichotte, sortant de ce rêve guerrier où il a vaincu le géant, déclare: j'ai vu sortir son âme à gros bouillons de sang qu'un effort généreux a tiré de son flanc. Et aussitôt, Sancho, dans ce rôle qui est de commentaire ironique de ce qui se passe, déclare aux autres personnages, puisqu'il se souvient de la fin du chapitre dans Cervantes: vous verrez à la fin que ce sang épanché sort d'un tonneau de vin. Tonneau ayant remplacé les outres, parce que ça faisait sans doute trop couleur locale, ou ça rendait les spectateurs français moins à même de suivre cette histoire du vin en sang et des géants en tonneau. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'iconographies qui font allusion à cette scène, ce ne sont pas des outres de vin qui sont représentées, mais un tonneau de vin. Et donc, du coup, la fin de la pièce chez Pichoux, qui s'appuie sur cet épisode introduit par Cervantes dans le récit du Curioso Impertinente, comme je l'avais dit, détail textuel. On peut penser que Cervantes a révisé l'ordre de ces chapitres à ce moment-là, puisque si vous regardez le titre du chapitre 36, c'est-à-dire celui qui suit l'histoire du Curioso Impertinente, il annonce le combat de Don Quichotte contre les outres de vin prises pour le géant, élément textuel qui est déjà advenu avant même le titre du chapitre. Donc ce chapitre annonce quelque chose qui a déjà été narré comme quelque chose qui va être le contenu du chapitre, ce qui laisse supposer qu'il y a eu un travail de réorganisation des chapitres par Cervantes, alors même que le manuscrit, la copia in limpio, avait été donné à la censure royale, ce qui était théoriquement interdit, puisque le privilège ne pouvait porter que sur un texte qui correspondait strictement à celui dans la version imprimée qui avait été remis par le manuscrit mis au propre de l'auteur. Donc du coup, pour Pichoux, la feinte avec laquelle il va finir sa comédie, c'est le départ de Don Quichotte, de Dorothée Micomicona et des autres personnages pour le royaume de cette infante restaurée dans son droit. Et Dorothée Cardenio continue cet artifice qui maintient Don Quichotte dans sa fantaisie en déclarant « Menez-nous, grande reine, où l'honneur nous appelle, bâtir les fondements d'une paix éternelle. » Et on pourrait penser qu'on finit ainsi la comédie, c'est-à-dire que les personnages sortent de scène en route pour le retour de Micomicona dans son royaume, une fois le géant détruit. Pas tout à fait, parce que Pichoux conclut la pièce avec un monologue désabusé de Sancho, qui est évidemment extrêmement intéressant si on pense à ce qu'est la fin, par exemple, du Don Juan de Molière. C'est dans deux situations parallèles, un serviteur qui, avec une sorte de lucidité malheureuse et de désabusement, fait le commentaire sur là où l'a mené la folie ou la violence de son maître. Je lis ce texte de Sancho seul, sur scène, comme l'est Sganarelle. « Qu'on ne m'en parle plus, je connais clairement que tout cet appareil est un déguisement. Mais si je suis jamais en mon petit ménage, si je puis une fois retrouver mon village, on m'ôterait les yeux, on pourrait m'écorcher pour me faire quitter l'ombre de son clocher. Au diable soit le maître et sa chevalerie. Ce pénible métier vient de sa rêverie. J'ai tout quitté pour lui, mes enfants, ma maison. J'ai souffert mille maux, j'ai perdu mon grison. Ô Dieu, que je connais mon espérance vaine, que j'ai mal employé ma jeunesse et ma peine. » Et cette fin est évidemment, il est bien possible, je reviendrai sur ce point, que Molière puisse s'en souvenir dans la fin du Don Juan, puisque les gages réclamés à son maître précipité dans les flammes de l'enfer ont la même tonalité que cette, à la fois ce dévoilement que repère cette lucidité malheureuse du serviteur par rapport aux folies, soit de Don Juan, soit de Don Quichotte. Des représentations de la pièce de Pichoux, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'on sait un peu plus que dans d'autres cas, dans la mesure où une description du décor a été gardée dans un mémoire manuscrit de Maheulo Laurent et d'autres décorateurs qui travaillaient pour l'hôtel de Bourgogne, où avait été représentée la pièce. Et on peut avoir une idée de ces dispositifs scéniques, puisque dans ce cas-là, on a la description au fond de la scène d'un palais doté de deux ailes, et sur l'aile située côté cour se trouve la fenêtre où Lucinde apparaît à Cardenio, c'est la scène 2 de l'acte 2, avant le mariage de elle. Obligée, forcée, qu'elle doit consentir à Fernand. Et plus en avant, on a l'ermitage où Dorothée, elle, a cherché refuge. Et côté jardin, une maison au toit de chaume qui est l'auberge, la taverne, d'où sortent les personnages lors du dernier acte. Ce que l'on sait pas, d'autre part, c'est que la pièce, elle, a eu des trois rééditions en 1633, puis 1634, l'une par le libraire éditeur qui possédait le privilège, François Targa, une autre qui est visiblement une contrefaçon, mon infraction de ce privilège. Ce qui, je crois, est intéressant dans cette pièce de Pichou, c'est qu'il est un lecteur très attentif de Cervantes, et on peut même, dont il a retenu, comme il dit dans l'avertissement qui ouvre l'édition, les amoureuses traversent. C'est-à-dire que dans cet argument, il y avait la possibilité de pratiquer ce genre dominant des années 20 et 30 du XVIIe siècle, qui est la tragicomédie, et comme vous l'aviez entendu la fois dernière, de composer à l'intérieur de ce genre tragicomique d'immenses monologues, en particulier de Cardenio ou de Dorothée, qui sont des monologues poétiques qui mobilisent les motifs favoris d'une esthétique qui est celle de l'inconstance, de la variation, de la métamorphose. C'est à la fois l'inconstance des êtres dont les sentiments changent brutalement, et c'est d'autre part ces métamorphoses, en particulier dans le registre de l'illusion, qui font se transformer les réalités du monde en autant d'imagination, de chimères, de fantasmes, qui sont le sens que leur donnent les différents personnages. Et la tension fondamentale qui est la matrice, en quelque sorte, de cette inconstance des êtres ou de cette métamorphose de la nature est à la fois... on pourrait dire littéraire, au sens que constamment le texte oscille entre la pastorale et le macabre, et qu'elle est d'autre part épistémologique, on peut se référer aux mots et les choses, c'est-à-dire que tout le fondement de cette esthétique est la dissociation entre les mots et les choses devenant ce que les mots en disent, et les monologues de Cardenio sont dans sa folie. Là, l'illustration parfaite de cet écart. Comme chez Guillaume de Castro, Pichou a résolu le rapport entre Cardenio et Don Quichotte en introduisant Don Quichotte, mais cette pièce est aussi intéressante parce que l'on voit que commencer un peu à la manière de Guillaume de Castro avec un Don Quichotte qui est un contrepoint burlesque de l'histoire, tragicomique en termes de genre, des amoureux et des amants séparés, il suit donc les moments où les deux histoires peuvent se croiser, c'est-à-dire lorsque Don Quichotte rencontre Cardenio, c'est pour lui à l'acte 3, et puis, comme je viens de le dire, à l'acte 5, lorsque la Dorothée accepte le costume de la princesse Micomicona. Mais ce qui est assez frappant, c'est le fait qu'il y a comme une progressive démultiplication de la présence de Don Quichotte dans une pièce qui a pour titre Les Folies de Cardenio, et le personnage cantonné au départ dans un rôle burlesque parallèle à celui du Gracioso envahit finalement le cinquième acte, comme si progressivement la lecture ou l'appropriation théâtrale du texte de Cervantes modifiait l'équilibre entre Cardenio et Don Quichotte, et comme je vous l'avais vu, le cinquième acte s'ouvre avec Don Quichotte, Sancho parlant de Dulcinée, et s'achève avec le départ de Don Quichotte accompagnant la princesse Micomicona dans son royaume restauré, et en contrepoint, la conclusion, ces vers à la Sganarelle de Sancho, qui sont évidemment tout entiers, comme si la mémoire de la pièce, le résumé de la pièce, était celle des Folies, non plus de Cardenio, mais celle de Don Quichotte. Et je pense que cela ouvre la voie à ce dernier moment que j'aimerais regarder pour le cas français des appropriations théâtrales du Quichotte, avec toujours cette idée d'essayer de percer le mystère de la pièce shakespearienne et fletcherienne perdue en voyant ce que d'autres dramaturges confrontés à la même difficulté ont pu faire. Cela ouvre la voie à la comédie avec laquelle je terminerai cet épisode français. C'est une comédie qui a été sans doute représentée en 1638, éditée, publiée en 1639 par un des libraires du palais, Toussaint Quinet, et qui a pour titre « Don Quichotte de la Manche », mais sans nom d'auteur, sur la page de titre. Alors on peut dire qu'elle inverse ici la relation entre la nouvelle et l'histoire, entre les folies de Cardenio et celles du chevalier errant, et que donc elle pourrait être moins utile pour comprendre une pièce anglaise perdue dont le titre était Cardenio. Mais si l'on se souvient de la pièce de Guillaume de Castro qui annonce au titre Don Quixote de la Mancha, mais qui est tout entière l'histoire des amants séparés puis réunis, on ne doit pas négliger cette pièce de 1638 pour essayer de comprendre une autre forme d'articulation entre Don Quichotte et Cardenio, dans la mesure où, évidemment, on y rencontre immédiatement les amours de Cardenie, Lucinde, Fernande et Dorothée dans les noms francisés des personnages du texte de Cervantes. L'auteur est bien connu, enfin l'éditeur Toussaint Quinet est bien connu, c'est un de ces libraires du palais qui multipliait les éditions des nouveautés, et en particulier des pièces de théâtre. Et l'auteur est un peu plus mystérieux, mais moins que ne l'est Pichou, dans la mesure où, au XVIIIe siècle, dans les histoires du théâtre, la première étant celle que j'avais citée la fois dernière, en 1733, la bibliothèque des théâtres de l'avocat Maupoint, il y a une attribution de cette pièce à quelqu'un dont j'ai écrit le nom au tableau, Guérin de Bouscal. Et intéressant le fait que ce Guérin de Bouscal a, en 1640, publié une autre pièce à partir de Don Quichotte, avec le titre Don Quichotte de la Manche, et en 1642, une troisième pièce, puisée dans l'histoire de Cervantes, le gouvernement de Sancho Panza. Donc, 1639, 40, 42, trois pièces de ce même Guérin de Bouscal. Alors, autour de lui, il y a deux questions, c'est-à-dire une identification de Guérin de Bouscal, qui, grâce aux recherches d'un collègue irlandais, Caldicott, qui est impliqué en ce moment dans la nouvelle édition de Molière de la Pléiade, et des recherches en archives en particulier, dans la partie méridionale de la France, a pu dresser un portrait de Guérin de Bouscal. Et d'ailleurs, il a même pu lui redonner son véritable prénom, qui était Daniel et non pas Guyon, qui est une erreur qui s'est introduite à un moment donné dans cette tradition des histoires du théâtre du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant à dire en premier lieu, c'est que lorsqu'il compose pour 1638 et publié 1639 son Don Quichotte de la Manche, Guérin de Bouscal a déjà écrit quatre pièce de théâtre venue de la province de Languedoc à Paris et protégée par le cardinal de Richelieu. Trois sont des tragicomédies. L'une a pour titre La Doranie, c'est la première, elle a été publiée en 1634. La deuxième est intéressante parce qu'elle a pour titre L'amant libéral, c'est-à-dire qu'elle est appuyée sur une des novelas ejemplares de Cervantes, 1637. Et la troisième, 1640, Cléomène. Et une tragédie, La mort de Brute et Porcie. Donc, il est un auteur qui, dans la protection du cardinal, sans participer nécessairement au groupe des auteurs qui écrivent pour et avec Richelieu, il a cette présence parisienne et il en vient à Cervantes et au Don Quichotte, mais sans doute par une familiarité, y compris avec les textes en langue castillane, de l'œuvre de Cervantes, comme le prouve cet amant libéral de 1637. La deuxième chose que l'on peut dire sur Guérin de Bouscal, c'est le fait qu'il est d'origine protestante, sans doute converti au moment de l'édit de paix d'Alès en 1629, venu à Paris pour faire carrière en étant lui-même d'origine juridique, études de droit, et devenant un des auteurs, et que, comme dans le cas de Pichou, et ça c'est peut-être un point qu'il faudrait analyser plus finement, comme dans le cas de Pichou, on peut lui supposer de certaines amitiés libertines, ou pour le moins d'un humanisme robin qui est à distance de la plus stricte orthodoxie ou du plus rigoureux catholicisme. Et dans les textes, il y a de très nombreuses citations, en particulier dans la pièce qui le gouvernement de Sanche Pansa, de nombreuses références à Rabelais, directes, des références plus implicites à Érasme, comme si il s'inscrivait dans cette sorte de tradition qui est peut-être trop forcée de qualifier de libertine. Il est sûr que chez Pichou, c'est plus clair. Mais néanmoins, qui traduit peut-être philosophiquement cette trajectoire confessionnelle. Et la présence dans la proximité du cardinal, c'est à Richelieu qui dédie la première pièce, la Doranise, explique sans doute quelque chose qu'on va rencontrer ici, qui fait un certain charme des textes de Guérin de Bouscal, c'est le fait qu'il a pris parti clairement contre Corneille dans la querelle du Cid, et qu'un des traits qu'il adore, c'est d'imiter à des fins burlesques et comiques les vers de Polyeucte ou du Cid. Et ces pièces sont entières, enfin très nourries, par des pastiches ou des parodies des vers cornéliens, mais évidemment mis dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les affrontements des héros du maître. Et il y a là un trait intéressant de l'écriture de Guérin de Bouscal. Et alors après, on sait qu'à partir de 1645, il abandonne cette carrière parisienne qui finalement a peut-être eu un certain succès, mais il n'a jamais été parmi les proches du cardinal de Richelieu. Il n'a pas eu la même visibilité que d'autres auteurs comme Méret ou Rotrou ou Scudéry, qui faisaient partie de cette écurie des littérateurs autour du cardinal. Il retourne en Languedoc, dans la ville de Réalmont, la petite ville de Réalmont dont il était originaire, devient d'ailleurs un des premiers consuls catholiques de cette ville protestante, et il y a un procès qu'a retrouvé Caldicott au sujet de cette élection dans la ville. Mais un trait reste lié au théâtre, même s'il abandonne l'écriture, il n'y a plus de pièces publiées ou écrites après 1645. Un trait reste intéressant, c'est qu'il était sans doute parmi les proches ou les protégés du lieutenant général, des trois lieutenants généraux qui sont succédés en Languedoc, et qu'à travers cet intermédiaire, il a sans doute rencontré Molière, lorsque la troupe de Molière donnait des représentations en Languedoc à la demande de Conti, et ce n'est pas sans importance parce que la pièce Le gouvernement de Sanche Pansa, donc il lui a publié en 1642, dans les années 1660, est une des pièces les plus souvent jouées par la troupe de Molière. On peut le suivre, puisque dans le cas de la troupe de Molière dans ces années-là, alors depuis 1600, dans les années 1660 jusqu'à la mort de Molière, on a un journal tenu jour après jour par un des comédiens, Lagrange, et qui donnait les pièces jouées, les recettes à chacune des représentations. Et on voit plus d'une trentaine de fois est jouée cette pièce, Le gouvernement de Sancho Panza. Donc, à distance de sa composition et de son édition. Donc il est sûr que cet intermédiaire a fonctionné et que Guérin de Bouscal, peu connu, non pas dans sa biographie, mais dans son œuvre littéraire que Pichou, a sans doute une importance très forte pour à la fois la troupe de Molière et peut-être, dans certains cas, l'écriture de certaines pièces de Molière. Alors, si on entre dans cette... un deuxième problème que je voudrais mentionner, c'est que, et le montre très bien l'édition qui a été faite de Don Quichotte de la Manche par Daniela de la Valle et Amédée Caria dans cette édition Slatkin Champion, avec peut-être juste le fait qu'il continue à utiliser le prénom faux Guyon qui était celui de la tradition. Il montre que il souligne dans leur introduction qu'il existe un manuscrit de la pièce datable du XVIIe siècle, et qui n'est pas le manuscrit qui a porté l'édition de 1639, d'une part parce qu'il attribue la pièce à un autre auteur, André Maréchal, et d'autre part parce qu'il figure deux scènes, et cela a une importance, qui ne figurent pas dans l'édition imprimée, la première scène de l'acte 1 et la scène 4 de l'acte 5. Et le manuscrit précise, cette scène n'est pas de M. Maréchal, elle a été ajoutée par M. F.D.G., l'auteur de la première du premier acte. Donc on est devant une certaine complexité d'attribution, puisque la pièce est attribuée à Maréchal, et la première scène et l'une des scènes de l'acte 5 sont attribuées à un anonyme qui n'est pas Maréchal. Et d'ailleurs, bon, on continue à penser qu'elle est de Guérin de Bouscal, il y a toute raison de le faire, puisqu'il y a les deux autres pièces qui montraient sa familiarité avec l'œuvre de Cervantes. Mais reste cette incertitude, et je crois que c'est un point intéressant, parce que c'est un des points dans lesquels, toujours par comparatisme, ce que l'on peut lire sur ou comprendre du théâtre anglais, pour lequel, pour l'immense majorité des pièces, il y a d'une part une très grande incertitude sur leur datation, puisque les dates des éditions imprimées peuvent être à plus ou moins grande distance des dates de la composition. Il y a une très grande incertitude sur leur attribution, puisque, comme je l'avais dit, la plupart des pages de titre sont sans mention du nom de l'auteur, et que donc les deux recours d'attribution sont ou bien le fait que dans un texte du XVIIe siècle, du fin XVIe au début XVIIe, une pièce est attribuée par un dramaturge à un autre dramaturge, c'était le cas de la pièce que j'avais commentée, Thomas Kyd, The Spanish Tragedy, ou bien c'est le travail cher de la critique, c'est-à-dire d'essayer de repérer des attributions possibles à partir de traits poétiques, stylistiques, thématiques. Mais l'absence du nom d'auteur, l'incertitude des attributions, et comme on le voit ici avec ce manuscrit, la pratique des additions ou des révisions, qui paraissent très caractéristiques du théâtre anglais, on peut, si l'on regarde en ouvrant un peu le corpus du classicisme français, par exemple chronologiquement, en se reportant sur les années 1620-1630, et d'autre part, si l'on regarde aussi des pièces ou des auteurs qui ne font pas partie du répertoire le plus canonique, on retrouve ces trois traits, sans doute avec moins de force que dans le cas anglais, mais néanmoins extrêmement présents. Et du coup, ça peut être une façon de reconsidérer ce qui a été un peu figé par la tradition de l'histoire littéraire autour d'un certain nombre d'auteurs, d'un répertoire canonique d'œuvres et d'un certain nombre de critères, celui de les plus classiques, un nom propre, une œuvre, une date. Alors Guérin de Bouscal, on va continuer à l'appeler ainsi, malgré la tentation de l'attribution à un dénommé Maréchal, ouvre sa pièce avec Cardeni, ce qui est déjà un paradoxe à la Guillaume de Castro, puisque la pièce Don Quichotte de la Manche commence avec l'histoire de Cardeni, et Cardeni Cardenio narre l'histoire de ses malheurs alors qu'il est déjà dans le désert. Donc la pièce commence au moment où il s'est réfugié par désespérance, ou isolé par désespérance et par imitation d'Orlando Furioso dans la Sierra Morena, devenue un désert sous la plume de Guérin de Bouscal, et la scène traumatique, comme vous vous en souvenez, étant la scène où il assiste derrière une tapisserie au mariage de Lucinde et de Fernando de Cervantes. L'événement n'est pas montré sur la scène, et là, Guérin de Bouscal n'utilise pas cette ressource spectaculaire qui n'avait pas manqué Guillaume de Castro. Il est raconté à un personnage qui s'appelle Don Lope et qui a pris la place du curé, ce qui est un autre trait intéressant que j'essayais d'évoquer, c'est-à-dire une certaine difficulté ou méfiance pour les dramaturges à mettre sur la scène des personnages qui seraient des personnages de rôle de membres de l'Église catholique. Chez Pichou, ça pouvait croiser son dessin libertin et donc de jouer avec des références un peu complexes et avec ce fameux sacrificateur qui remplaçait le curé de la paroisse, comme on le voit dans le chapitre du Quichotte, qui célèbre le mariage entre Lucinde et Fernando. Ici, chez Guérin de Bouscal, ça devient ce personnage de Don Lope qui efface la présence ecclésiastique, y compris du curé, non pas celui du mariage de Lucinde, mais celui du ami, compagnon de Don Quichotte et itinérant avec le barbier. Donc il y a cet effacement. Les folies de Cardenie, deuxième différence, n'inspire pas à Guérin de Bousquet, qui n'a pas la plume de porter à cela, les grands monologues poétiques, baroques de Pichou, qui jouait, comme je le rappelais, entre le bucolique et le macabre, la métamorphose des choses et l'inconstance des êtres. Ici, les folies, ses propres folies, ne sont évoquées par Cardenie qu'assez brièvement et sobrement lorsqu'il déclare « Mais soudain la douleur m'ôta le jugement » et mille faux objets troublant ma fantaisie jetèrent mon esprit dedans la frénésie. Ce mot frénésie se trouvait aussi chez, et déjà chez Pichou, mais ici il ne désigne que ce qui a été emprunté évidemment à Cervantes, c'est-à-dire le fait que dans cette frénésie, Cardenio croit se venger en s'attaquant à des personnages qu'il identifie comme les responsables de son malheur, à commencer par Fernando, ce qui est appelé dans la pièce de fantasque portrait. Mais lorsque commence la pièce, il est déjà guéri de cette rêverie. C'est-à-dire que peut-être que Guérin de Bousquet a pensé que les folies de Cardenio avaient déjà été bien traitées, donc il n'était peut-être pas nécessaire de recommencer. Donc il est déjà raisonnable, Cardenio, qui commence la pièce. Et de même manière, en parallèle, là, suivant très strictement la structure de Cervantes, récit de Cardenio, récit de Dorothea, il y a la même manière, Dorothea racontant ce qui lui est advenu, rappelant son histoire, abusée par Fernande. « Je suis d'Andalousie et l'amour d'un seigneur à qui j'abandonnais mon âme et mon honneur sous les conditions d'un prochain hyménée cause le déplaisir par qui je suis gêné. » Et on rappelle, mais là encore, on n'en tire pas la force qui pouvait être celle de Cervantes, les promesses de Fernando, les conditions d'un prochain hyménée qui avait conduit Dorothée à se donner à lui. Puis elle raconte qu'elle a appris le mariage de Cardenie et elle rappelle les événements, mais qui ne sont pas montrés sur la scène. Là encore, elle a une sorte d'effacement du spectaculaire par Guyon de Bouscal, l'évanouissement de Lucinde, la découverte de la lettre où, je cite, « de sa propre main, elle faisait savoir qu'elle avait dit oui seulement, par devoir, qu'elle aimait Cardenie. » Et vous voyez l'affaiblissement, c'est-à-dire qu'on ne dit plus que Lucinde avait dit dans sa lettre qu'elle était déjà l'épouse de Cardenio et qu'elle ne pouvait pas épouser un second mari qui était Fernando. Elle le fait contrainte, forcée, troublée. Mais la lettre rappelait que la raison de ensuite de son évanouissement, du billet qu'on a trouvé sur elle, puis de son départ, était qu'elle se considérait comme déjà mariée. Alors qu'ici, simplement, elle aimait Cardenie. Et donc, on voit que l'affaiblissement qu'on avait trouvé chez Guillaume de Castro, répété par Pichou, trouve ici encore une forme plus forte. Et Dorothée rappelle le départ de Fernande, le refuge trouvé par Lucinde dans un monastère, et sa propre fuite dans ces tristes déserts, toujours la Sierra Morena ainsi décrite, où Don Lope et Cardenie l'ont rencontré, et l'ont rencontré au moment, et là, Guérin de Bousquet n'a pas évité la référence, au moment où vous souvenez peut-être que la pauvre Dorothée, de bien mauvais sort, avec ses compagnons de voyage, le serviteur qui l'accompagne et qui veut la violer et qu'elle précipite dans un ravin. Et puis ensuite, là, c'est pas dans Guérin de Bousquet, lorsqu'elle rencontre le berger ou chevrier, déguisé en homme, il la reconnaît comme femme, et veut obtenir les mêmes résultats, mais là, elle est sauvée à temps et elle n'a pas besoin de renverser dans un ravin un second de ces hommes désirants. Et elle déclare ici, va méchant, puisqu'elle est, elle raconte comment elle s'est libérée de ce serviteur qui voulait que la violenter. Va méchant, va perfide au fond du précipice, j'immole à mon honneur et ta vie et ton vice, je devais cet effort à ma pudicité. Et donc la pièce commence avec ces deux récits, Cardénie et Dorothée, qui reconnaissent la commune origine de leur malheur, c'est-à-dire la trahison de Fernando et l'acceptation forcée de Lucinde, et le jeune homme lui promet son aide. Et c'est seulement à ce moment-là que commence l'histoire normalement annoncée par le titre de la pièce, c'est-à-dire l'histoire de Don Quichotte, de Don Lope et de Barbero, qui est le barbier de l'histoire, et qui sont entrés dans la Sierra Morena pour, dans ces affreux déserts, ces tristes déserts, pour ramener Don Quichotte dans sa maison. Le Barbero, le personnage, entre en scène, on cite, apportant des habits de femme et des barbes nécessaires au stratagème qu'ils ont imaginé. Nous avions résolu de décevoir ses yeux, il parle de Don Quichotte, et de nous déguiser l'un en dame affligée qui d'un ton excessif désire être vengé, et l'autre en écuyer. C'est le rappel du stratagème, puisque le curé et le barbier ont pensé que c'était la meilleure manière de faire revenir Don Quichotte, c'était de se déguiser l'un en princesse éplorée et l'autre en son serviteur. Et vous savez qu'il y avait dans Cervantes déjà l'échange des rôles. Au début, c'est le curé qui devait être déguisé en femme, mais la décence a fait qu'il décide rapidement d'interchanger les rôles, et c'est le barbier qui décide de se déguiser en femme. Et comme chez Cervantes, mais ici très rapidement, dans la condensation du théâtre, Dorothée se propose à faire le rôle. Elle sera plus à l'aise peut-être que Barbero dans cela, puisqu'elle dit « j'ai lu les Amadis ». Et donc, du coup, elle peut jouer la princesse victime. Et Barbero, barbu, tiendra le second rôle. Et alors là, on a ce mécanisme que j'avais repéré aussi dans Guillaume de Castro, c'est-à-dire que, et de plus en plus avec le temps passant, de plus en plus les spectateurs de ces pièces connaissent le Quichotte. Ils l'ont lu, et peut-être relu. Et donc du coup, les pièces jouent sur ce mécanisme qui est de déclencher des mémoires du texte à partir d'allusions extrêmement brèves et de répéter dans une sorte de résumé, comme le font les personnages dans la deuxième partie du Quichotte, quand Sanson Carrasco revient de Salamanque et que Don Quichotte lui demande « bon, on a publié les récits, mais au fait ?» Et ensuite, il y a une discussion sur qu'est-ce que sont les passages qui ont attiré l'attention des lecteurs. Et donc, Guérin de Bouscal ne manque pas cela, puisqu'il fait une sorte de résumé très bref, mais qui sont autant d'incitations aux spectateurs de se remémorer les pages de sa lecture, aux événements clés de l'histoire de Don Quichotte, bien entendu, pour commencer, la bataille avec les moulins à vent, l'épisode du Biscayen, la fin du chapitre 8, lorsque le récit s'interrompt, la conquête du Home de Membrun, la libération des forçats parmi Rines de Passavante, les assauts contre les marchands, puis les pèlerins. Et Don Lope présente cela comme l'histoire qui fournit des sujets de rire à la mémoire, celle de Don Quichotte et de son écuyer Sancho. Alors le mécanisme là, et c'est maintenu à travers toutes les appropriations textuelles dont on a parlé, c'est-à-dire le fait de supposer une mémoire première du texte de Cervantes et que le texte du dramaturge peut soit déployer en choisissant tel ou tel épisode et tel moment de l'intrigue, soit condenser au point qu'il s'agit d'une simple mention et qui remplit dans l'imagination fondée sur la mémoire du spectateur d'un contenu cette rapide allusion. Et évidemment, entre 1605-1606, 7, qui est peut-être la date de la Commedia de Guillaume de Castro, et 1639 à Paris, cette connaissance mobilisable par le texte dramatique du Quichotte s'est évidemment largement répandue. Et à la dernière scène de ce premier acte, la rencontre des personnages, dont Lope, Barbero et Dorothée avec Sancho, marque le commencement de ce qui va faire l'essentiel de la pièce de Bouscal, c'est-à-dire la comédie qu'ils vont jouer aux chevaliers errants autour de la figure de Dorothée déguisée en princesse dépouillée, présentée ainsi. C'est l'héritière en chef du grand Micon Micon, roi de l'Éthiopie, et qui cherche ton maître pour se donner à lui. Et Don Lope clôt l'acte en annonçant les plaisirs à venir. Allez un peu devant, Dieu, que nous allons rire. C'est-à-dire que c'est une ode de cette modalité du théâtre dans le théâtre, puisqu'ici, ils ont organisé leur propre spectacle, la feinte, le stratagème, l'histoire de Dorothée Micomicona, et que c'est cela qui va être présenté à un premier ensemble de spectateurs, à commencer par Don Quichotte et Sancho, et à un deuxième ensemble de spectateurs, c'est-à-dire ceux qui sont assis dans la salle du théâtre, qui, dans ce cas-là, devait vraisemblablement être le théâtre de la troupe du Marais. Et c'est là ce qu'a choisi finalement Guyon de Bouscal comme Guérin de Bouscal comme élément matriciel de sa pièce, c'est-à-dire l'histoire de la princesse Micomicona. Alors dans le second acte de cette comédie, qui reprend de très nombreux détails textuels du Quichotte, dans des chapitres 29 et 30, il est tout entier occupé par l'histoire des malheurs de la reine du Micomicon. Don Quichotte se met à son service, mais refuse sa main. Mon cœur est engagé, je suis à Dulcinée, ce qui déclenche la colère de Sancho, parce qu'il pense que comme ça, malheureusement, on ne va pas lui donner l'île que Don Quichotte lui a promise. Et alors, l'intrigue là, sentimentale de Cardenio s'éloigne un peu, puisque Dorothée apparaît surtout dans son rôle de princesse du Micomicon, comme une actrice qui sait improviser ses aventures au-delà même des espérances de Don Lope et du texte de Cervantes, d'ailleurs, qui lui fait, puisqu'il y a peu de lignes dans le texte de Cervantes qui sont consacrées à la façon, une fois qu'elle a déclaré qu'elle avait lu les Amadis, qu'elle pouvait jouer le rôle, il y a peu d'éléments sur la manière dont elle joue la princesse Micomicona, tandis qu'ici, évidemment, ça devient un élément central du dispositif dramatique et qui fait l'admiration, d'ailleurs, des autres personnages dont Lope déclare « D'où peut-elle tirer les discours qu'elle enfile ?» C'est-à-dire qu'elle a une invention très large pour jouer le rôle. Et dont Lope et Cardenio sont devenus les spectateurs de la petite comédie qu'ils ont conçue. La pièce est ravissante, déclare le second au vers 655. Et du coup, on voit très bien pourquoi Guyon de Bouscal fait cela, parce qu'il propose le thème du théâtre dans le théâtre, qu'on l'a vu, est devenu une grande banalité à partir du moment où, du début du XVIIe siècle, c'est devenu presque une figure obligée des pièces de théâtre. Dans le séminaire, j'avais commenté la fois dernière l'illusion comique de Corneille, et dans un des premiers séminaires, le dernier acte de The Spanish Tragedy de Thomas Kyd. Et ce sont deux exemples spectaculaires du théâtre dans le théâtre. Et évidemment, on pourrait mettre comme chaînon intermédiaire, sans doute très inspiré par le texte de Kyd, les tragédiens de la cité qui arrivent au palais d'Elsineur et qui représentent devant la cour et devant Hamlet la tragédie de Murder of Gonzago. Et alors donc, pour chaque dramaturge, c'est un exercice un peu obligé, mais il faut essayer de trouver des variations sur ce thème obligé. Alors, Guyon de Bouscal a trouvé cette variation, c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas une troupe de comédiens, comme dans Hamlet ou comme dans l'illusion comique, ce n'est pas non plus une représentation par la quasi-totalité des personnages de la pièce, comme dans The Spanish Tragedy, qui, dans une sorte de pièce de cour, accepte de jouer des rôles et qui va les conduire à leur perte. Mais c'est le fait que, s'appuyant sur Cervantes, il y a une petite comédie qui est montée avec, autour d'une histoire, et c'est celle-ci qu'on va mettre en scène, qui exploite la crédulité de Don Quichotte. Et on pourrait aussi commenter cela, avoir la même avec cette idée que c'est non seulement du théâtre dans le théâtre, mais c'est une mise en abîme dans le théâtre de ce qui est supposé être la condition de réception des spectateurs, ce qu'on appellera en anglais « the suspension of disbelief », c'est-à-dire le fait que, bien sûr, la crédulité de Don Quichotte en est la parodie, puisqu'elle est au premier registre, la crédulité qui est attendue du spectateur, elle n'est jamais complètement séparée de la volonté de croire et de la conscience que ce qui est cru est de l'ordre de l'illusion ou de la représentation. Donc du coup, on voit comment Guillaume de Bouscal introduit dans cette Guérin de Bouscal a introduit dans sa pièce cette dimension en faisant l'essentiel autour du stratagème, et c'est le premier à agir ainsi, de l'histoire de Micomicona. L'histoire qui faisait l'essentiel de la pièce de Pichou revient, mais seulement au début du troisième acte, avec l'entrée en scène de Fernand et de Lucinde, qui était absent jusqu'ici, puisqu'on n'avait rencontré que Cardenny et Dorothée, au moment où Fernande a arraché à son monastère Lucinde. Et c'est là où Guérin de Bouscal entre dans cette relation de pastiche, de parodie du style cornélien. À Fernande qui lui déclare « Ma résolution ne se pouvait changer, je devais vous avoir, mourir ou me venger », Lucinde oppose sa fidélité à Cardenny, son refus déterminé, dans un échange qui se déploie sur 8 vers, mais qui se déploie dans cette forme si chère à Corneille, qui est la stichomythie, c'est-à-dire le fait que le vers est divisé en deux et qu'il y a un parallèle entre un énoncé et l'autre énoncé. Par exemple, Lucinde, que vous connaissez mal la liberté de l'âme, Fernande, que vous connaissez mal le pouvoir de ma flamme. Donc, le procédé est toujours le même. Ça peut être vers à vers, alexandrin à alexandrin, ou ça peut être dans le même alexandrin, les deux hémistiches qui ont des structures extrêmement parallèles, et en tous les cas, lorsque c'est vers à vers, avec la même rime. Et c'est un procédé poétique qui enchante Guérin de Bouscal. Il le réitère plusieurs fois dans cette scène, entre Fernande et Lucinde. N'accorderez-vous rien à ma condition ? Demande Fernande, et lui répond Lucinde, n'accorderez-vous rien à mon affection ? Et après le renversement de situation qu'introduit la supplication de Lucinde, qui se jette aux pieds de Fernande, enfin son âme se relâche, relâchez donc mon cœur, faites un peu le lâche, jetons-nous à ses pieds, il va continuer, et avec une transformation presque nécessaire pour pouvoir continuer ce jeu des vers à la Corneille, qui était le fait que dans le cas de cette pièce, celle qui va faire fléchir le Fernando de Cervantes, ce n'est pas Dorothée, comme chez Cervantes ou comme chez Guillén de Castro, mais c'est Lucinde elle-même. Seigneur, considérez son amour, donc celui de Cardenny et le mien. Seigneur, considérez mon malheur et le sien. Donc là, c'est la formule est employée par le même personnage à deux vers d'écart, mais les deux vers construits avec le même parallèle qui d'habitude attribue le premier à l'un et le second à l'autre. Et Fernande est totalement envahi par ces déclarations. Je lui résiste en vain, la pitié me surmonte. Et en quelques vers, là encore, avec ces brusques mutations de sentiments, il cède et sa violence se transforme en générosité. Mouvement de fureur, qu'êtes-vous devenu ? Depuis qu'elle a parlé, vous ne me parlez plus. Fier et lâche désir, sanglant bourreau de l'âme, qui m'inspiriez naguère et le fer et la flamme, conseiller violent, tyrannique projet, si vous fûtes mes rois, vous serez mes sujets. Vieux et cruel tyran, il faut que je vous chasse et qu'enfin la raison reprenne votre place. Sans effet, je me rends, madame, apaisez-vous. Et la formule de la stichomythie revient pour achever la scène, partageant les derniers vers le dernier vers entre Lucinde et Fernande. Fernande lui dit « Vivez pour votre époux, vivez pour Cardenny ». Et Lucinde lui répond « Ah, Seigneur, Fernande, je lui cède. Oui, madame, il vous plaît, je veux qu'il vous possède. Puis-je m'en assurer ? Pouvez-vous en douter ? Qui peut vous égaler ? Qui peut vous résister ?» Donc là, faut dire qu'il y a presque parfois un abus du procédé qui se retourne contre sa vigueur des premières surprises. Et l'annonce par un valet de l'arrivée de Cardenio et Dorothea anime une nouvelle fois, et je vais terminer avec ça pour faire une petite pause de 5 minutes, anime une nouvelle fois la même verve poétique de Guyon de Bouscal, puisque en voyant arriver Cardenio et Dorothée, Lucinde s'exclame « Serait-ce mon amant ?» Fernande « Serait-ce ma maîtresse ?» Lucinde « Puis-je espérer cette heure ?» Fernande « Puis-je attendre ce bien ?» Allons donc. Lucinde « Je crains tout et je n'espère rien. » On peut rester là et faire une pause de 5 minutes en espérant que vous espérez encore.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.